Chapitre 20. Dans les immenses couloirs du palais du peuple, le cœur même du pouvoir d'Aran, le martèlement des semelles sur la pierre composait un étrange fond sonore. Anna se tortilla un peu sur le banc de marbre blanc où elle était assise, coincée entre trois femmes et un couple d'âge mûr. Tous ces braves gens parlaient de ce que les passants portaient, souvent pour en dire du mal, ou des curiosités à ne manquer à aucun prix lorsqu'on visitait le palais. Ces bavardages innocents ne faisaient de tort à personne, et ils aidaient sûrement les gens à oublier la guerre et son cortège de malheurs. Pourtant, la dame abbesse avait du mal à croire qu'on ne soit pas bien au chaud dans son lit, à une heure si tardive. Les commérages étaient agréables, mais tout de même. La tête baissée, Anna faisait mine de fouiller dans son sac de voyage. En réalité, elle ne cessait de surveiller les soldats qui patrouillaient dans le couloir. Devait-elle s'inquiéter à leur sujet ? Elle n'en savait rien et ne tenait pas à le découvrir quand il serait trop tard. « Vous venez de loin ?» demanda la femme assise à sa gauche. Anna sursauta, puis comprit que la question lui était adressée. « Eh bien, c'était un long voyage, oui. » Espérant qu'on lui fiche la paix, la dame abbesse recommença de fourrager dans son sac. Mais la femme aux cheveux à peine grisonnants ne se laissa pas décourager. « Moi, j'habite assez près, mais j'aime bien passer une nuit au palais de temps en temps, histoire de me remonter le moral. » Anna regarda autour d'elle, admirant le magnifique sol de marbre, les arches aux colonnes veinées de roses, les balcons délicatement sculptés. Puis elle contempla la voûte qui laissait passer la lumière du soleil pendant la journée, illuminant les superbes statues qui ornaient les fontaines et les bassins. « Oui, je vois ce que vous voulez dire. » murmura Anna. Cela dit, ce lieu ne lui remontait pas le moral. Bien au contraire, il la rendait plus nerveuse qu'un chat égaré dans un chenil. Elle sentait que son pouvoir était terriblement affaibli ici. Le palais du peuple était en réalité un complexe urbain plus grand que bien des mégalopoles. Des dizaines de milliers de gens y vivaient et les visiteurs y affluaient quotidiennement. Aux différents niveaux, on trouvait des habitations, des commerces, ou des institutions liées à l'État, et un certain nombre d'étages étaient interdits aux visiteurs. Au pied du complexe, dans une vaste plaine, un marché en plein air se tenait tous les jours de la semaine. Tandis qu'elle gravissait l'incroyable escalier à l'intérieur du complexe, Anna était passée par plusieurs niveaux exclusivement réservés au commerce. Véritable plaque tournante économique, le palais attirait des gens venus des quatre coins de Dara. Mais c'était surtout le fief ancestral des râles, la lignée qui dirigeait le pays depuis des lustres. Et cela lui conférait une grandeur qui dépassait la compréhension de la majorité des gens qui le visitaient ou y résidaient. Le palais du peuple était un sortilège. Pas un endroit protégé par un sort comme le palais des prophètes, mais un sort en soi. Le complexe entier avait été bâti dans un but bien précis, être un sortilège, dessiné sur la face du monde. Les murailles fortifiées déterminaient l'apparence physique du sortilège, les combinaisons de salles formaient les moyeux de grandes roues invisibles et les couloirs étaient les lignes de force du construct magique, l'essence du sort et la source de sa puissance. Comme les lignes d'un sortilège dessinées dans la poussière avec la pointe d'un bâton, les couloirs avaient dû être construits dans l'ordre requis par la magie particulière qu'on entendait évoquer. Procéder de cette manière avait dû être extraordinairement coûteux, car cela impliquait de négliger les techniques classiques du bâtiment pour recourir à des méthodes beaucoup moins rationnelles. Mais c'était le seul moyen pour que le sort soit actif. Et pour être actif, il l'était. Cette magie très spécifique faisait du palais un endroit parfaitement sûr pour tout membre de la lignée râle. Elle renforçait le pouvoir du seigneur régnant et diminuait celui de tous ses visiteurs. Anna n'avait jamais senti son Han se racornir d'une telle manière. Ici, elle doutait d'avoir assez de pouvoir pour allumer une bougie. La dame abbesse resta bouche bée de surprise quand elle s'avisa d'une autre particularité du sortilège. Elle sonda les couloirs à portée de sa vue, certaines lignes du sort, et comprit pourquoi ils étaient en permanence pris d'assaut par des visiteurs. Les sorts dessinés avec du sang étaient les plus puissants et les plus actifs. Mais quand le fluide vital séchait dans la terre, puis se décomposait et disparaissait, la magie faiblissait en même temps. Ici, les lignes du sort, les couloirs, étaient gorgées du sang des gens qui allaient et venaient jour et nuit dans le complexe. Voilà pourquoi le palais était ouvert aux quatre vents. Un concept génial qui stupéfiait littéralement Anna.
« Vous louez une chambre, je suppose. »
Anna avait totalement oublié la femme assise à côté d'elle.
« Eh bien, pour être franche, je ne sais pas encore où je dormirai ce soir. »
La femme continua à sourire, mais sa courtoisie semblait lui coûter de plus en plus d'efforts.
« Vous ne pourrez pas vous rouler en boule sur un banc, savez-vous? Les gardes ne vous y autoriseront pas. Si vous ne louez pas une chambre, ils vous jetteront dehors. »
Anna comprit où sa voisine voulait en venir. Aux yeux de ces gens, tous vêtus de leurs plus beaux atours pour leur visite du palais, elle devait ressembler à une clocharde. Alors que la tenue des autres était le principal sujet de médisance de ces badauds, voir Anna à côté d'eux devait les déconcerter.
« J'ai de quoi payer une chambre, » assura la dame abbesse. « Mais je ne sais pas où on peut en louer, voilà tout. Après un si long voyage, je voulais trouver une auberge et prendre un bon bain, mais j'ai dû reposer un peu mes vieilles jambes. Auriez-vous la bonté de me dire où on peut louer des chambres ?»
Le sourire de la femme redevint plus naturel.
« Je vais de ce pas regagner mon auberge, et je peux vous y conduire, ce n'est pas très loin. »«
Ce serait très gentil à vous, » dit Anna.
La femme se leva et souhaita une bonne nuit à ses deux amis. Anna se leva aussi, d'autant plus pressée de partir qu'une patrouille venait d'apparaître à l'autre bout du couloir. La dame abbesse était surtout épuisée parce qu'elle avait été embarquée, l'après-midi même et contre sa volonté, dans la séance de dévotion au Seigneur Ral. Entendant sonner une cloche, tous les gens s'étaient réunis dans une cour à ciel ouvert et s'étaient agenouillés comme un seul homme. Personne ne s'était dérobé à ce rituel et des gardes patrouillaient pour s'en assurer. Se sentant comme une souris sous le regard d'une armée de hiboux, Anna s'était jointe à la célébration. 2 heures à genoux sur un sol dur, le plus souvent prosterné afin que son front touche le carrelage glacé. 2 heures à répéter les mêmes fadaises.
« Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Les résidents du palais devaient sacrifier à ce rituel plusieurs fois par jour. Franchement, Anna se demandait comment ils pouvaient supporter ça. Puis elle se souvint du lien entre le Seigneur et ses sujets qui empêchait Jagang de s'introduire dans leur esprit. Du coup, elle ne se posa plus la question. Prisonnière pendant un temps de l'empereur, elle l'avait vu assassiner une sœur simplement pour démontrer sa puissance. Face à un tel monstre, s'acquitter d'innocente dévotion n'était pas un grand sacrifice. Cela dit, Anna n'avait pas besoin de répéter la ridicule litanie. Elle était liée à Richard depuis plus de 500 ans, soit très longtemps avant sa naissance. Selon une prophétie, Richard était la seule chance de l'humanité d'éviter une catastrophe. Anna sonda attentivement le couloir. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à trouver le prophète.
« Par là !»
dit la femme en tirant Anna par sa manche. La dame abbesse suivit sa nouvelle amie dans un couloir sur la droite. Par prudence, elle tira son châle pour dissimuler son sac à dos et serra son autre sac de voyage sous son bras. En avançant, elle se demanda combien de gens sur leur banc de marbre échangeaient des ragots à son sujet. Le sol du couloir était en mosaïque afin de dessiner des motifs géométriques qui donnaient le sentiment d'évoluer sur un dallage à 3 dimensions. Cette illusion d'optique, très classique, existait dans l'Ancien Monde, mais Anna ne l'avait jamais vue appliquée sur une telle échelle. Une œuvre d'art. Et il s'agissait seulement du sol. Dans ce palais, tout était fabuleux. De chaque côté du couloir, sous des arcades, des boutiques proposaient tout ce qu'un voyageur pouvait désirer. Des boissons, de la nourriture, des confiseries. Sur d'autres étalages, on trouvait des chemises de nuit ou des pyjamas. Anna vit même un marchand de bigoudis. Même à cette heure tardive, la plupart des commerces étaient encore ouverts et les affaires marchaient bien. Dans un tel complexe, il devait y avoir des centaines de travailleurs nocturnes et il fallait bien qu'ils se nourrissent. En revanche, les salons de beauté et les coiffeurs étaient fermés car leur clientèle, une légion de coquettes, n'arriverait pas avant l'aube suivante.
« Et d'où venez-vous ? »
demanda la compagne d'Anna en regardant avec intérêt les étalages des deux côtés du couloir.
« Du sud, très loin au sud. »
Voyant que la femme tendait l'oreille très intéressée, Anna décida de lui donner un peu de grain à moudre.
« Ma sœur habite ici et je viens lui rendre une petite visite. Elle conseille le seigneur Rall sur des sujets importants. »
« Une conseillère du seigneur Rall ?»
s'extasia la femme.
« Quel honneur pour votre famille !»«
Oui, nous sommes tous fiers d'elle. »
« Et sur quoi le conseille-t-elle »«
Sur quoi ? Eh bien, des affaires stratégiques. »«
Une femme ? Et le seigneur l'écoute sur des questions militaires ?»«
Oui, »
persista et signa Anna. Elle baissa le ton.
« C'est une magicienne !» Une voyante, même. Elle m'a écrit une lettre où elle prévoyait que je viendrais au palais. N'est-ce pas remarquable ?
Eh bien, oui. Surtout puisque vous êtes là, comme elle l'avait prévu.
Elle m'a dit aussi que je rencontrerais une femme très serviable.
Eh bien, elle a l'air très douée.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ses prévisions sont extraordinairement précises.
C'est vrai ? « Qu'a-t-elle dit d'autre au sujet de votre visite ?»«
Eh bien, elle a prédit que je rencontrerai un homme ici. »«
Un homme ? Il y en a beaucoup au palais. Voilà qui ne me semble pas très précis. À mon avis, elle a dû entrer davantage dans les détails. Pour une conseillère du seigneur Rall, ça paraît la moindre des choses. »
Anna fit mine de puiser dans ses souvenirs.
« Oui, maintenant que vous le dites, voyons si je me souviens. »
Anna posa une main sur le bras de la femme comme si elles étaient de vieilles amies.
« Elle me parle sans arrêt de mon avenir. Ses lettres sont tellement remplies de détails sur mon futur que j'ai parfois le sentiment de ne plus contrôler ma vie. Et bien entendu, j'oublie tout un tas de choses.
« Faites un effort, »
implora la femme.
« C'est tellement fascinant. »
Anna feignit de se plonger dans une profonde méditation. Alors qu'elle levait les yeux au plafond, comme pour y trouver l'inspiration, elle remarqua pour la première fois que la voûte était peinte pour imiter le ciel, avec les nuages et même les oiseaux. L'effet était saisissant.
« Eh bien, »
fit Anna lorsqu'elle fut sûre d'avoir captivé son auditoire,
« ma sœur affirme que cet homme est vieux, mais très distingué cependant. Pas un vieux barbon décrépit, mais un homme très grand, avec une crinière blanche qui cascade sur ses larges épaules. Selon elle, il serait rasé de près, beau comme un dieu, et fascinant avec ses yeux bleus foncés.
« Des yeux bleus foncés ? »
répéta la femme.
« Oui, ce doit être un très bel homme. »
« Ma sœur prétend qu'une femme fondée qu'il pose sur elle ses yeux d'hypnotiseur. »
Pour des précisions, ce sont des précisions. Dommage que votre sœur ne connaisse pas le nom de cet homme.
Mais elle le connaît. Mériterait-elle le titre de conseillère du seigneur Rall si elle ignorait ce genre de choses?
Son nom? Elle vous l'a dit? Elle peut prévoir l'avenir avec tant d'acuité?
Bien sûr que oui,
mentit effrontément Anna. Elle marcha un moment en silence, regardant les gens qui allaient et venaient dans le couloir et s'arrêtaient parfois devant une boutique.
« Alors ? »
insista la femme.
« Quel nom vous a indiqué votre sœur ? Comment s'appelle ce grand gentilhomme distingué ?»
Anna regarda une nouvelle fois la voûte.
« Son nom commençait par un N. Nigel, Norris ou quelque chose comme ça. Non, une minute. »
Anna claqua des doigts.
« Il s'appelle Nathan. »«
Nathan !»
répéta la femme, comme si elle avait été prête à torturer Anna pour lui arracher ce nom.
« Nathan ?»«
Oui, c'est ça, Nathan. Vous connaissez quelqu'un de ce nom au palais ?
Un grand type âgé avec des cheveux blancs, de larges épaules et des yeux bleu foncé.
Cette fois, ce fut la femme qui contempla la voûte et Anna qui guetta nerveusement une réponse. Soudain, une main se referma sur l'épaule de la dame abbesse et la força à s'arrêter de marcher. Anna et sa compagne se retournèrent. Elles découvrirent une grande femme aux yeux bleus et aux cheveux blonds nattés. Vêtue d'un uniforme de cuir rouge, elle ne paraissait pas du tout commode. La compagne d'Anna devint blanche comme une crème à la vanille.
« Nous vous attendions, »
dit la femme en rouge. Anna se força à ne rien dire. À quelques pas de là, une dizaine de soldats armés jusqu'aux dents bloquaient le passage.
« Eh bien, »
dit la dame abbesse,
« vous devez vous tromper parce que je ne me trompe jamais. »
Anna était bien plus petite que la blonde, de bonnes têtes de moins au bas mot, de quoi l'inciter à la prudence.
« Oui, ça ne doit pas être votre genre, »
dit-elle d'un ton soudain moins conciliant.
« Que se passe-t-il ? Le sorcier râle veut que nous vous arrêtions. »« Le sorcier râle ? Oui, Nathan râle. »
La compagne d'Anna poussa un petit cri. Craignant qu'elle s'évanouisse, la dame abbesse la retint par un bras.
« Vous allez bien, très chère ?
Oui, oui, »
mentit la pauvre femme.
« Mais il se fait tard et je dois y aller. Puis-je partir ?»«
Oui, ce serait une bonne idée, »
répondit la grande blonde. La femme aux cheveux gris fit une révérence, marmonna un « bonne nuit » presque inaudible et fila sans demander son reste.
« Ravi que vous m'ayez trouvé, »
lâcha froidement Anna.
« Maintenant allons voir Nathan. Enfin, je veux dire, le sorcier râle. » « Le sorcier ne vous accordera pas d'audience. Ce soir, vous voulez dire qu'il ne me recevra pas ce soir ?»
Anna s'efforçait de rester polie, mais elle avait hâte de tordre le cou de ce vieil enquiquineur, ou au moins de le rosser copieusement.
« Je m'appelle Nida, »
dit la femme.
« Ravie de vous rencontrer. Tu ne sais donc pas qui je suis ?»
demanda la blonde, jetant la politesse aux orties.
« Une mort de site, espèce d'idiote. Je vais te donner un avertissement, et c'est le seul auquel tu auras droit de ma part. Tu es venue pour nuire au sorcier râle, et tu es maintenant ma prisonnière. Si tu tentes d'utiliser ta magie, je m'en emparerai pour la retourner contre toi, et crois-moi, ce ne sera pas une expérience agréable. »«
De toute façon, » soupira Anna, « ma magie n'est pas très vaillante ici. » Pour tout vous dire, elle ne vaut plus tripette, donc je suis parfaitement inoffensive.
Je me fiche de l'état dans lequel est ton pouvoir. Tente seulement d'allumer une bougie avec et il m'appartiendra.
Je vois, dit Anna.
Tu as des doutes? Essaie donc de m'attaquer. Voilà longtemps que je ne me suis plus approprié le pouvoir d'une magicienne. Ça pourrait être amusant.
« Désolé, mais je suis trop fatigué pour attaquer quelqu'un. Le voyage, sans doute. Peut-être plus tard. »
Nida sourit et Anna, face à ce rictus, comprit pourquoi les morts de Sith étaient tellement redoutés.
« Très bien, j'attendrai. »«
Que ferez-vous de moi jusque-là ? »
demanda Anna.
« Allez-vous m'enfermer dans une des jolies salles du palais ? »
Nida ne daigna pas répondre, mais fit un signe de tête. Deux soldats sortirent du rang et accoururent. Dominant Anna comme des chaînes auraient dominé un fraisier, ils la saisirent chacun par un bras.
« Allons-y, »
dit Nida. Elle avança d'un pas décidé dans le couloir. Les deux géants la suivirent, portant quasiment Anna, dont les pieds ne parvenaient pas à toucher le sol plus d'un pas sur trois ou quatre. Devant eux, les patients s'écartaient pour céder le passage à la mort de Sith. Certains entraient précipitamment dans la première boutique qui s'offrait à eux et d'autres se pressaient contre les murs. Tous regardaient la petite femme vêtue d'une robe bleue que deux gardes du corps en cotte de maille conduisaient vers son destin. Suivie par les autres soldats, Nida, Anna et les deux colosses s'engagèrent dans un court corridor qui donnait sur une lourde porte barrée de fer. Un homme courut l'ouvrir. Avant d'avoir compris ce qui se passait, Anna franchit le seuil entre ses deux anges gardiens. Le couloir défendu par la porte ne ressemblait pas à ceux que la dame abbesse venait d'admirer. Obscur et humide, il empestait la mort. Le petit groupe s'engagea dans un escalier aux marches en bois. Plusieurs soldats allumèrent des lampes afin d'éclairer le chemin de Nida. Au pied de l'escalier, la mort de Sith continua son chemin dans un dédale de corridors tout aussi glauque, puis elle descendit un nouvel escalier. Anna et ses geôliers progressaient dans les entrailles du palais. Avant la dame abbesse, des centaines de prisonniers avaient dû emprunter ce chemin pour ne plus jamais remonter à la surface. Darkenral, le père de Richard, et Panisral, son grand-père, étaient de célèbres amateurs de torture. Pour des hommes comme eux, la vie ne signifiait rien. Mais Richard avait changé tout ça. Hélas, il n'était pas là. En revanche, Nathan avait élu résidence au palais. Anna connaissait le prophète depuis près de 1000 ans. Pendant ces 10 siècles, elle l'avait gardé prisonnier dans ses appartements. Les hommes comme lui n'avaient pas droit à la liberté, mais il s'était enfui et il avait réussi à prendre le pouvoir au palais du peuple, la demeure ancestrale d'Héral. Après tout, il était un parent de Richard, un sorcier et un membre de la lignée régnante. Anna jugea soudain idiot le plan qu'elle avait imaginé. Prendre le prophète par surprise et lui passer un collier autour du cou. Il suffirait d'une ouverture et il serait de nouveau en son pouvoir. Tout ça lui avait paru logique, quelque temps plus tôt. Au terme d'une très longue descente, Nida s'engagea sur une étroite corniche bordée par un mur humide sur la droite et par une balustrade de fer sur la gauche. Anna jeta un coup d'œil au-delà de la rampe, mais elle ne vit rien d'autre qu'une obscurité épaisse comme de l'encre. À combien de centaines de pieds se trouvait le fond de ce gouffre? Une question théorique, puisqu'elle n'avait aucune intention de se battre avec ses geôliers. Cela dit, s'il décidait de la jeter dans le vide, l'atterrissage risquerait de faire mal. Mais cette femme et ses hommes obéissaient à Nathan. Si mal embouché qu'il fût, le prophète ne lui infligerait pas un sort pareil. Encore que, après des siècles d'incarcération et de brimades, le vieil homme pouvait avoir envie de se venger. Anna sonda de nouveau les inquiétantes ténèbres.
« Nathan nous attend ? »
demanda-t-elle d'un ton faussement enjoué.
« J'ai hâte de lui parler. Nous devons discuter d'affaires très sérieuses. »
Par-dessus son épaule, Nida jeta un regard noir à la dame abbesse.
« Nathan n'a rien à vous dire, »
lâcha-t-elle. Puis elle tourna de nouveau à droite et accéléra le pas. Une hâte soudaine qui ne dit rien de bon à Anna. Au bout d'un énième couloir étroit, la mort de Sith s'engagea dans un escalier en colimaçon. Craignant de tomber, la dame abbesse saisit la rampe rouillée, mais les mains puissantes plaquées sur ses épaules lui auraient sans doute épargné une chute. En tout cas, elles étouffaient dans l'œuf toute tentative d'évasion. Au pied de l'escalier, Nida fit signe au petit groupe de s'arrêter. Si bas dans les sous-sols du palais, l'air empestait la poix, la fumée, la sueur et l'urine. Une sorte d'avant-goût du royaume des morts, songea Anna. Entendant les échos d'une quinte de toux sur sa droite, elle sonda un étroit corridor et distingua une enfilade de portes de cellules. Des mains serraient parfois les barreaux des Judas et on n'entendait pas un bruit à part quelques gémissements étouffés. Sur la gauche, un homme en uniforme attendait devant une porte bardée de fer. Cet officier semblait taillé dans une pierre aussi dure que celle des murs. Dans d'autres circonstances, Anna lui aurait trouvé une indubitable prestance.
« Nida, »
salua-t-il en inclinant la tête.
« Que m'amènes-tu là ?»«
Une prisonnière, capitaine Lerner. »
La mort de Sith saisit la dame abbesse par une épaule et la tira en avant, l'exhibant comme un trophée de chasse.
« Une femme très dangereuse. »
Lerner étudia brièvement la captive.
« Une cellule spéciale ? »
demanda-t-il.
« Oui, »
répondit Nida.
« Le sorcier Ral ne veut pas qu'elle puisse sortir. Il dit qu'elle est une source infinie de problèmes. »
Une demi-douzaine de remarques acerbes vinrent à l'esprit d'Anna, mais elle parvint à tenir sa langue.
Viens avec nous dans ce cas,
dit Lerner.
Tu nous aideras à l'incarcérer derrière les champs de force.
Nida inclina de nouveau la tête. Deux soldats avancèrent et sortirent des torches de leur support. Quand il eut trouvé la bonne clé sur un anneau qui en comptait une bonne dizaine, le capitaine ouvrit la porte qui pivota sur ses gonds avec un grincement sinistre. Anna ne se demanda pas pour qui sonnait ce glas, car elle savait que c'était pour elle. Quand Lerner eut fini de pousser la porte, il s'engagea dans un couloir chichement éclairé par des bougies. À travers les barreaux de leurs cellules, des prisonniers rendus fous par la solitude tendaient leurs mains aux ongles recourbés comme des serres. Depuis combien de temps ces malheureux n'avaient-ils plus vu le jour? Les porteurs de torches suivirent Nida et les flammes crépitantes firent briller son superbe uniforme moulant en cuir rouge. Les prisonniers grognèrent de désir et de frustration. La gielle, pendue à une chaînette, vola dans la main de la mort de Sit, qui foudroya du regard les chiens qui lui manquaient ainsi de respect. Toutes les mains disparurent, et Anna entendit des bruits de pas. Les prisonniers s'étaient réfugiés au fond de leur cachot, et plus un seul n'osait simplement soupirer. Certaine qu'il n'y aurait pas de problème, Nida recommença d'avancer. Les deux géants entraînèrent Anna avec eux, et le capitaine ferma la marche. La dame abbesse tira un coin de son châle sur sa bouche et sur ses narines, mais ça ne fit pas grand-chose contre la puanteur ambiante. Lerner prit une petite lampe dans une niche murale, l'alluma et alla ouvrir une nouvelle porte. Dans le couloir très bas de plafond, au-delà, les cellules étaient placées très près les unes des autres. Une main couverte de pustules jaillit d'une petite ouverture et se retira aussitôt. Derrière la porte suivante, le couloir, encore plus bas, se révéla à peine plus large que les épaules d'Anna. Alors que Nida et les hommes étaient obligés de se plier en deux et de rentrer le ventre, la dame abbesse tenta en vain de contrôler les battements affolés de son cœur.
« Ici !»
dit Lerner en s'arrêtant. À la lueur de sa lampe, il trouva la bonne clé et déverrouilla une nouvelle porte. Confiant la lampe à Nida, il banda ses muscles pour faire pivoter le lourd battant. Quand il se fut engouffré dans l'ouverture, Nida le suivit, entraînant Anna avec elle. Au fond d'une très petite pièce, le capitaine était occupé à ouvrir une deuxième porte. Anna comprit que les champs de force étaient actifs dans l'avant-pièce. Derrière la seconde porte, une minuscule cellule sans fenêtre attendait les prisonniers condamnés à ne jamais revoir le soleil. Les râles savaient construire des oubliettes dignes de ce nom. Nida tira Anna par le bras. Bien qu'elle fût très petite, la vieille femme dut baisser la tête pour entrer dans ce qui serait son ultime résidence. Un banc creusé à même la pierre tenait lieu d'ameublement. On avait posé dessus une couverture miteuse et un gobelet cabossé. Un pot de chambre attendait dans un coin du réduit. À défaut d'être propre, il avait été vidé.
« Nathan m'a ordonné de vous laisser ça, »
dit Nida en posant la lampe sur le banc. À l'évidence, il s'agissait d'un luxe auquel les autres invités n'avaient pas droit. La mort de Sid fit mine de sortir, mais s'immobilisa quand Anna cria son nom.
« Nida, transmettez un message de ma part à Nathan, je vous en prie. Dites-lui que je voudrais le voir. C'est très important.
Il m'avait prévenu que vous diriez ça. C'est un prophète, après tout.
Vous lui transmettrez mon message ?»
« Nathan m'a déjà donné la réponse. Il a un palais à diriger, et il ne peut pas accourir chaque fois que vous l'appelez. »
Presque mot pour mot, ce qu'Anna faisait répondre au prophète quand une sœur venait l'informer qu'il désirait la voir.
« Dites à Nathan que j'ai un palais à diriger. Je ne peux pas accourir chaque fois qu'il m'appelle. S'il a une nouvelle prophétie, qu'il la note sur une feuille de parchemin et je la regarderai quand j'aurai le temps. » À l'époque et jusqu'à aujourd'hui, Anna n'avait pas mesuré à quel point ce comportement était cruel. Nida sortit et tira la porte derrière elle. La dame abbesse se retrouvait seule dans une prison dont elle ne réussirait jamais à s'évader. Au moins, elle était presque au terme de sa vie et ne devrait pas y croupir pendant des siècles comme Nathan y avait été contraint.
Nida !
Cria-t-elle en se précipitant vers le petit guichet.
La mort de Sid se retourna alors qu'elle allait franchir la première porte au-delà du champ de force désormais activé.
« Oui. Dites à Nathan que... Eh bien, que je suis désolé. »«
Oh, ça, je parie qu'il s'en doute. » railla la mort de Sid. Anna passa une main à travers les barreaux.
« Nida, je vous en prie, dites-lui aussi que je l'aime. »
Avant de refermer la première porte, Nida dévisagea un long moment la prisonnière.